20h01 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale et internationale. Et oui, les Jeux Olympiques se rapprochent à vitesse grand V puisque c'est désormais dans 3 jours qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture de ces Olympiades parisienne. Les premières épreuves, ce sera même pour demain soir et on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Avant de vous présenter le sommaire, on va présenter ceux qui m'accompagnent autour de la table avec à ma droite, Cédric qui est là. Salut Cédric, comment ça va?
Salut tout le monde, bah écoute, ça va super bien.
La forme?
Ouais, chaud.
Prêt pour les Jeux?
Prêt pour les Jeux, je sais pas.
T'es pas encore échauffé?
Ouais. On va y aller doucement. Hein. Faut se mouiller un peu la nuque hein, avant d'y aller. Hein, avec les fortes chaleurs et tout.
Puis il y a cette émission pour ça.
Et voilà. Puis surtout, ce serait bête de se claquer dès le premier. Avant le jour J, quoi.
Avant le jour J qui arrive très très bientôt.
Surtout qu'on en connaît dans l'équipe qui sont spécialistes hein, pour se claquer régulièrement.
Ah, peut-être, oui. Et on va avoir des petits pépins physiques.
C'est ça, voilà.
Ouais, d'ailleurs, il n'est pas là ce soir. Faustin n'est pas là. Matteo non plus. Les gars, si vous voulez interagir dans le chat, vous pouvez, tout comme, évidemment, chers auditeurs, vous pouvez évidemment nous retrouver sur radio-g.fr pour échanger avec nous sur le chat de Radio G. Face à moi, il y a Florian qui est là. Salut Florian, comment ça va?
Ben ça va très bien, écoute, on est prêt pour les Jeux Olympiques, on a hâte que ça commence dès demain, donc c'est bien aussi que d'avoir un peu cette avant-première sur les Jeux Olympiques, donc dès ce mercredi avec les Sportco.
Ouais, ça va être très intéressant, t'es prêt pour les Jeux Olympiques toi?
Bah bien sûr, bah, j'attends ça depuis au moins de nombreuses années, de voir les Jeux Olympiques en France en tout cas, c'est... à des heures abordables pour suivre un peu les
bien
Jeux,
sûr.
En journée. On n'a pas à se lever en pleine nuit ou à suivre tôt le matin.
Donc la première fois depuis 2012, du coup, quand même.
Ouais, ça fait
c'est les horaires
12 ans.
Ouais,
ça me ramène à ma jeunesse.
Exactement. Et moi, personnellement, j'y étais en plus. Donc,
en 2012?
Ouais, en 2012. Ouais. Ah, c'était vraiment sympa. Et malheureusement, c'est dans mon pays cette fois et je n'irai pas. Mais
la meilleure organisation de ces dernières années, en tout cas, apparemment, selon beaucoup.
Ouais, alors j'étais un peu jeune quand même. Hein. J'avais 11 ans, mais non, vraiment, c'était très très bien. Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va? Ah, excuse-moi, le micro, c'était pas le bon, vas-y.
Salut Alex, salut à tous, moi ça va nickel. La reprise du foot, tranquille, on allait faire des petits footings, puis j'ai passé la fin de semaine dernière à la mer, donc tout va bien.
Et prêt pour les Jeux toi aussi?
Bah oui, je me prépare doucement.
Tu vas y assister?
Oui, bien sûr. Oui. Je pars le 1er août, donc ça approche à grands pas. Et du coup, on va suivre tout ça avec grand intérêt.
Et toi qui es plutôt jeune, qui est le plus jeune de l'équipe, c'est quoi tes premiers souvenirs de jeu, les premiers jeux duquel tu te souviens?
Les Jeux de Rio, donc en 2016.
Ouais.
Et encore, j'ai des vagues souvenirs de Laurent Luya le matin en me levant à la télé. Mais non, ce dont je me souviens plus, c'est ce à Tokyo où là j'étais en vacances et on écoutait à la radio non-stop. On avait RMC en boucle.
Et cette année, on aura Génération Sport.
C'est ça.
Les JO. On vous rappelle évidemment, on va continuer de faire notre propre publicité. Samedi 19 de 19h à 21h, retrouvez donc nous en direct sur Radio G pour une émission spéciale. Qui va être vraiment sympathique avec du beau monde. Et puis, on suivra évidemment tout ce qui va se passer en direct. On reviendra aussi sur la cérémonie d'ouverture qui aura eu lieu la veille. On suivra pas mal de choses. Il y a des chroniques également de prévues et un invité plutôt sympa qu'on annoncera dans les jours à venir sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, soyez présents, rendez-vous samedi 27 de 19h à 21h sur Radio G. Au sommaire de cette émission, comme je disais, on va rentrer peu à peu dans ces Jeux Olympiques. Alors, d'abord, on va un petit peu débriefer le Tour de France hein, qui s'est terminé dimanche du côté de Nice. Et on pourra donc revenir sur un petit peu ce qui s'est passé avec cette victoire de Tadej Pogacar. Ensuite, on va vous proposer plusieurs previews autour des tournois olympiques de sport collectif avec les véritables chances de médailles françaises dans les différents tournois. On va vous parler de football puisque le tournoi commence dès demain. On parlera également de hand, de rugby, de basket, de volley. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Et puis en fin d'émission, on dira un petit mot de tennis puisque on pourrait peut-être avoir quelques bons parcours pour deux tennisman français et pourquoi pas des belles surprises également chez les autres non têtes de série du côté des Français et des Françaises. Voilà pour le sommaire. Au niveau local, on a, comme on le disait, on n'a pas forcément beaucoup de contenu à vous proposer. On sait que le SCO donc est en dans sa phase de préparation, un peu comme toutes les équipes hein, locales. Le SCO qui a perdu ce week-end contre Le Mans 2-0. Je crois que c'est la deuxième défaite en deux matchs.
Oui,
non, ils ont gagné 3-2.
Ils avaient gagné contre Châteaubriand, c'est ça?
Oui, Châteaubriand 3-2 dans la difficulté.
Donc voilà, un petit peu compliqué la préparation. Mais voilà, au niveau des rumeurs de transfert, je sais pas si vous avez vu quelque chose, les gars.
Non.
Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui a notamment sorti que le SCO serait sur Aris Belkebla, l'ancien de Brest, notamment. Donc voilà, pas forcément trop d'infos locales, ouais.
Peut-être juste une petite info assez amusante, c'est il y avait le test de VMA ce matin et c'est Pierrick Capel qui l'a remporté. Donc voilà, juste une petite info rigolote.
Ouais, oui, c'est important. Je crois que chaque année c'était Wanis Taibi qui gagnait souvent.
Ouais, mais il y est plus là.
Mais comme il est prêté ou vendu, je ne sais plus. Et il n'a pas pu gagner cette année. Et oui, Pierrick Capel qui a encore de la réserve. Hein,
bien sûr. Évidemment.
Il va falloir compter sur lui cette saison. On va donc revenir ensemble sur ce Tour de France 2024 qui s'est clôturé donc ce dimanche 21 juillet, si je dis pas de bêtises, voilà, avec la victoire de Tadej Pogacar, le Slovène qui s'est imposé pour la troisième fois sur la grande boucle après 2020 et 2021. C'est assez exceptionnel et puis surtout ce Tour de France est marqué par voilà ce grand écart qu'il y a eu. Il y a clairement, entre guillemets, pas eu de duel entre Tadej Pogacar et son rival de toujours, Jonas Vingegaard, qui, on le rappelle, était le double tenant en titre. Et on a un Tadej Pogacar qui a été assez impressionnant. 6 victoires d'étape sur ce Tour de France. Hein, c'est plus d'un quart des étapes hein, remportées par le Slovène, notamment le triplé sur les 3 dernières, ce qui est assez impressionnant. Voilà pour Tadej Pogacar. Et puis donc au niveau du classement général, on a un Jonas Vingegaard qui termine à 6 minutes 17. C'est assez invraisemblable, celui qui était pourtant donc le double tenant du titre. Et troisième place donc pour le Belge Remco et Evenepoel de l'équipe Soudal Quick Step. Alors les Français au général, ça n'a pas été grandiose avec aucun top 10. Et puis Guillaume Martin qui est à la 13e place pointe à 43 minutes de Tadej Pogacar. Voilà pour le Tour de France. Bah les gars, après cette victoire de Pogacar, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui va dominer le cyclisme mondial sur peut-être les 10 prochaines années?
Bah vu comme c'est parti, oui. On va dire qu'il a quand même 25 ans. C'est ça. Donc tu disais sa 3e victoire sur le Tour, mais c'est sa 3e victoire en 5 participations. Donc il fait 3 fois premier et 2 fois deuxième. Donc ça montre aussi le coureur. T'as l'impression que rien ne peut le fatiguer ou rien ne peut l'atteindre. Il est préparé ou surpréparé, surrécupéré, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais. Mais c'est vrai que de voir ses performances, le problème c'est que la France est traumatisée, je pense, la France du cyclisme et les spectateurs du Tour sont traumatisés par ce qui s'est passé avec l'époque Armstrong. Et donc forcément, je pense que quand tu vois une surdomination d'un homme au sein de cette compétition qui est la plus difficile du monde, parce que quand on voit Guillaume Martin, le premier français, il est 13e à 43 minutes. Ouais. Donc, mais quand on voit aussi certains autres coureurs, sans parler des Français, on voit des coureurs qui ont gagné des grands tours et qui sont à la rue complet.
Geraint Thomas,
Jay Hindley qui a gagné un Tour d'Italie, Egan Bernal qui a gagné le Tour de France. Alors après, lui c'est différent parce qu'il est, en plus il a eu connu une grave chute en Colombie. Donc, mais de voir ça, de voir un homme qui a gagné le Giro, en plus il fait le doublé, hein, on parle d'un mec qui gagne le Tour d'Italie puis le Tour de France.
Bah oui, on l'a pas précisé.
En un mois et demi d'intervalle.
Et 12 victoires sur ces deux tours.
Exactement, hein. Il fait 6 et 6 sur les deux tours. Donc voilà, en fait, il y a tellement à dire et si peu parce que du coup, on sait plus quoi dire par rapport à cette performance tellement elle est choquante.
C'est vrai que t'en penses quoi toi? Est-ce que c'est t'as des doutes peut-être sur l'intégrité de Pogacar ou non, t'es juste impressionné par
bah, forcément le doute, il est là. Hein. Ouais, on sait comment ça s'est déjà passé par le passé, hein, quand il y a eu des dominations comme ça.
Jurisprudence Armstrong, comme disait.
Oui, et puis même affaire Festina et même avant, hein, tu l'évoquais tout à l'heure, la stat un petit peu de 97, le dernier tour, où en termes d'écart, on retrouvait
C'est le dernier tour où le quatrième est à plus de 15 minutes, c'est 97, et donc techniquement, c'est le, on peut le dire maintenant, hein, 25 ans ou 27 ans plus tard, c'est l'un des tours les plus dopés de l'histoire.
Peut-être qu'il y a eu plus que ça, mais on n'est pas au courant.
Voilà, on ne sait pas. Mais voilà, Ulrich gagne Tour de France, même si c'est pas avéré contre lui, on lui a pas retiré son Tour de France. Mais bon, maintenant, on sait très bien qu'il y a eu des histoires autour de lui. Richard Virenque, un an après, il tombe dans l'affaire Festina. Marco Pantani, il y a eu des doutes aussi, même si c'est un coureur incroyable, un coureur magnifique. Enfin, voilà, c'est pas une affirmation, c'est des suspicions qui ont été sur 97, mais en 97, le quatrième, il est à plus de 15 minutes, et là, on a un quatrième à plus de 19 minutes. Enfin, c'est invraisemblable.
Et c'est un coéquipier.
Et c'est un coéquipier de Tadej Pogacar. Ouais.
Et puis bon, il y a ce qui rajoute un petit peu du sel là-dessus, c'est sa non-participation, du coup, au JO.
Ouais.
Parce que mine de rien, on sait qu'en termes de contrôle antidopage, au niveau des JO, c'est un peu plus strict que sur un grand tour.
On peut être naïf et dire que bah il est vraiment fatigué par ce qu'il vient de faire.
Non mais oui, mais si tu veux, enfin du coup ça rajoute un argument à la théorie de il est dopé, pas forcément dopé via des produits. Hein, ça se trouve c'est un dopage matériel. Ça, on sait plus ou moins que ça existe dans le cyclisme. Pour l'instant, on n'a jamais réussi vraiment à contrer ça. Pourtant, il y a eu des vélos qui sont passés au rayon X, tout ça, pour voir s'il n'y avait pas des mini-moteurs dans les cadres ou des choses comme ça. Enfin, on n'a jamais rien trouvé, mais ça reste une possibilité que bah, on est peut-être sur un tour à nouveau gangréné par tout ça.
Clément, t'en penses quoi, toi?
Bah, en même temps, j'ai envie d'y croire parce que le spectacle qu'il nous propose, enfin, ça devient lassant, mais c'est quand même beau, enfin, de réaliser ce qu'il réalise, les trois fantastiques, Evenepoel, Pogacar et Vingegaard, c'est quand même des performances qui sont pas négligeables, mais en même temps, on a toujours ce doute de se dire, forcément, il y a peut-être un peu de dopage qui traîne par là parce que tu le disais Florian, il y a un passé à ce Tour de France avec tellement d'histoires de dopage que on se dit c'est pas possible que désormais tout ça soit oublié et qu'il nous sorte des performances comme ça sans forcément être dopé. Donc j'ai envie d'y croire, mais en même temps il y a le doute de est-ce qu'ils sont dopés.
Ouais. Il y a aussi le milieu, du coup, aussi, qui se pose cette question-là. C'est peut-être là aussi.
Oui, aussi.
Et c'est ça, parce que souvent on dit oui, c'est les haters d'un tel ou un tel qui disent tout de suite oui, c'est du dopage. Là, il y a aussi des équipes et même des professionnels qui ont quand même des petites suspicions par rapport à ça.
Mais après, ça n'empêche pas, tu vois, il y a des gens qui sont fans. Tadej Pogacar, quand tu vois le duel, enfin, l'année dernière, entre lui et Vingegaard. Enfin, l'année dernière, tu peux te poser exactement la même question sur Jonas Vingegaard aussi, parce que du coup, avec son contre-la-montre, où il met une claque à son coéquipier et il met une claque à Tadej Pogacar. Voilà. Bon, après, maintenant, on a eu un tour, on dit ça aussi parce qu'on a un tour un peu décevant sur le fait de pas avoir le vrai duel entre les deux, mais bon, Vingegaard, il tombe autour du Pays Basque, il se fait une clavicule, il reste 15 jours à l'hôpital, ouais. Il revient en plein mois de juin, enfin, il a pas de vraie préparation.
C'était un peu pareil l'année dernière pour
Exactement,
Pogacar,
hein. Exactement, avec la main et le poignet ouais. Qu'il a eu aussi, donc. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine pour avoir un tour, parce que ça n'empêche pas, je pense qu'on est tous fans de vélo, oui, et voilà. je suis un dingo de vélo, et pourtant, j'ai aimé des coureurs. Mon coureur préféré, ça restera Richard Virenque, qui est pourtant, il est tombé pour ouais. Dopage. J'adorais Ben Mayo, et pourtant, il a eu des histoires de dopage. Alejandro Valverde, et pourtant, il a eu des histoires aussi avec son nom qui était dans certaines affaires. Donc,
maintenant, Alberto Contador.
Alberto Contador, voilà, c'est des mecs qui ont eu des histoires. Bon, Alberto Contador, c'était un steak haché qu'il avait apparemment, il y avait trop de protéines dedans. Voilà, c'était une histoire de steak haché selon lui, mais voilà.
Ça devait être un steak américain, quoi. Dopé.
Mais ça n'empêche pas que je pense qu'à un moment donné, le vélo doit se. Ils ont fait des gros progrès par rapport au dopage. Et ouais. Par rapport à la recherche et la lutte contre le dopage. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'il fasse des progrès aussi par rapport à l'armada de certaines équipes. Et je pense que clairement, le vélo doit aller vers quelque chose comme un salary cap, comme un peu en NBA où tu vois, où tu peux pas avoir non plus tous les mêmes joueurs dans la, enfin, je dis ouais. Ça, mais pourtant, il y a eu des rassemblements de gros joueurs dans les grosses équipes.
Oui, mais là.
Mais sauf qu'à un moment donné, tu peux pas arriver sur le Tour de France avec, Joao Almeida, Adam Yates, Tadej Pogacar, Marc Soler, Pavel Sivakov,
puis même
Juan Ayuso, qui sont des mecs. Enfin, et encore, il a.
On peut prendre la Jumbo même l'année dernière. Ouais,
exactement.
Ineos bien avant avec
complètement.
Thomas, Froome,
Egan Bernal,
voilà ça, des
Katowski.
Enfin, quand tu vois le train UAE cette année.
Ouais.
Après, tu te diras, c'est la même chose sur le train US Postal à l'époque, ou après oui. Le train Discovery, le train en montagne.
Pas comme toutes les grandes équipes.
Ça, mais oui. Cette année, enfin, tu vois, il y a des trucs qui sont assez surprenants. Tu vois, Nils Polite, pour ouais. Un peu nos qui sont les personnes dont les non spécialistes du Tour de France là qui nous écoutent. Nils Polite, c'est plus un mec qui envoie du gros sur du plat, sur des Paris Roubaix, qui peut gagner un Paris Roubaix, qui aurait pu gagner un Paris Roubaix par le passé, et qui peut encore le gagner, hein, mais qui te fait un train en montagne dans un col hors catégorie, qui fait exploser la moitié du peloton, et ils finissent à 15 dans le groupe au moment où Nils Polite il décroche, quoi.
Ça me fait penser à Christophe Laporte aussi, qui était à Cofidis, et il arrive à Jumbo, il grimpe comme il avait jamais grimpé à Cofidis, et ça aussi ça peut faire poser des questions.
Et au-delà du coup du dopage, on en vient du coup à tu parlais du salary cap, on en vient en fait peut-être la question de l'argent. Est-ce qu'il y a aujourd'hui je crois que c'était un article de l'équipe qui disait ça, qu'aujourd'hui au niveau de l'investissement monétaire dans le cyclisme, c'est exponentiel en fait.
Ah ben,
c'est-à-dire que vous avez des sommes folles qui sont mis dans les salaires
des coureurs
l'équipe UAE qui vient des Émirats Arabes Unis,
ouais.
On sait que c'est des gens qui dans le sport ne rechignent pas à mettre le chèque et à aligner les salaires. Donc effectivement, il y a le dopage, mais est-ce qu'il y a pas aussi l'équipe? Est-ce que Pogacar dans une équipe avec des coureurs plutôt moins forts? Et c'est un peu d'ailleurs ce qui s'est passé sur les derniers tours avec Vingegaard. Vingegaard, son équipe était meilleure que celle de Pogacar, et c'est lui qui gagnait, même s'il était très fort, j'enlève rien à ce qu'il a fait.
Exactement.
Mais il avait les meilleurs lieutenants possibles, ouais. Ce que n'avait peut-être pas à l'époque Pogacar.
Et c'est pour ça que l'été dernier, en fait, à la sortie du Tour de France, tu vois 15 jours après les annonces de UAE par rapport au mercato qu'ils ont ouais. fait, tout de suite avait les gros noms. Ils ont voulu répondre tout de suite, et je pense que là, tu vois, dans les 15 jours qui vont arriver, il y a les jeux, mais peut-être après les jeux, d'ici la fin août, tu verras que la Visma Lisobike va l'équipe de Jonas Vingegaard va essayer de faire en sorte de répondre aussi sur le papier pour avoir ouais. une équipe plus forte l'année prochaine. Par contre, en termes d'argent, c'est la récupération, c'est l'investissement que tu mets dans tes R&D, un peu comme en Formule 1, ou tu vois dans plein de choses que tu mets. Et là, tu parlais des Émirats, on peut parler aussi de la Bahrain Victorious, donc du Bahrain, oui, avec Lenny Martinez, donc le coureur de la FDJ. Groupama FDJ.
Ça s'est fait ou pas?
Ouais, c'est fait okay. Le transfert. Lenny Martinez va aller à la Bahreïn pour un salaire que la FDJ, une équipe bien française, sûr. Ne pourra pas donner.
Ouais.
Donc voilà. Donc
c'est le problème de l'argent. Et dans la série Netflix qui est sortie par rapport au film par rapport au Tour de France de l'année dernière, c'est très bien raconté ça par Marc Madiot, par des directeurs sportifs de plus petites équipes. Ils disent que forcément ils peuvent pas rivaliser avec des UAE ou des Jumbo qui ont le triple voire le quadruple de de moyens à dépenser.
Bah, et puis même au-delà des individualités, il y a aussi les moyens dans les staffs, dans
oui, c'est ça, bien sûr,
complètement.
Ce qui est important parce que c'est Romain Bardet qui disait ça, qui dispute peut-être son dernier tour et qui, on le rappelle, a gagné une étape, la première étape. Il disait le niveau en fait du cyclisme et de ceux qui dominent le tour, c'est exponentiel comme les salaires tout à l'heure.
Oui.
C'est-à-dire que c'est un niveau qui est monstrueux. Et qui fait que nos Français qui se débrouillaient bien il y a quelques temps, bah aujourd'hui sont lâchés.
Ouais.
On a eu un David Gaudu qui normalement joue le top 10 au général et qui a lâché dès la première étape.
Parce que vous avez des... Il y a deux ans, il était quatrième. Hein.
Ouais, c'est ça.
Il y a deux ans, il est quatrième du Tour de France. L'année dernière, il explose complètement. Et il est encore dans le top 10. Cette année, c'est fini. Ouais. Et malheureusement, je pense que le train Gaudu est passé maintenant. C'est dommage hein, pour lui, mais il va falloir se concentrer sur autre chose.
Ah bah et même, t'en parlais la semaine dernière, que Bardet et Barguil disaient qu'ils étaient... Enfin, surtout Bardet disait qu'il était dans la meilleure forme de sa vie et que bah il y a de cela 5 ans, il était même pas au top de sa forme et qu'il faisait des... Il a fini deuxième sur le Tour de France. Et là, il finit... Enfin, il a pas joué de général, mais je pense que s'il jouait de général, il faisait même pas top 10, quoi.
Ouais.
Donc voilà pour le cyclisme et le Tour de France. On va peut-être faire une petite transition avec les JO. Il y aura donc pas Pogacar au JO, on le rappelle. Ouais. Côté français, au niveau de ceux qui vont disputer ces Jeux Olympiques, on aura de mémoire, donc à coup sûr Alaphilippe, hein, t'en avais
bien sûr
parlé, Florian. On aura comme coéquipier donc
Laporte
et Vauquelin, voilà, qui a gagné l'étape aussi sur le Tour.
Parce que du coup, en fait, la personne qui fait le contre-la-montre individuel doit forcément faire partie de l'équipe.
Ouais. Et Vauquelin.
Il fait le contre-la-montre individuel.
Voilà, il fait les deux. Donc
okay, très bien. Et au niveau
chance de médaille d'ailleurs, je pense que sur
le contre la montre.
Bah, non, sur pas sur le contre la montre, sur la course en ligne.
Ah oui, bah,
justement
oui,
j'allais en parler, c'est plus une épreuve pour les baroudeurs. C'est un peu ça.
Les punchers. Après il y aura forcément une échappée matinale pour cette comme dans tout championnat du monde ou course de JO. Maintenant, le tracé, il a été fait pour,
Van der Poel.
Ouais, non, mais pour côté français, pour Alaphilippe. Il y a la butte Montmartre, il y a tout.
Ouais.
Il est de nouveau en confiance. Maintenant, à voir comment ça sera le jour J. On en parlait un peu en off. T'as des coureurs qui ont fait un Tour de France un peu dans l'anonymat, un peu moins. Enfin, Van der Poel, il fait le strict minimum pour son coéquipier, mais ils en gagnent quand même 3. Mais t'as pas vu un Van der Poel tranchant pendant le tour, et je pense qu'il avait qu'une idée en tête, c'est le Tour de France.
Ouais.
C'est une étape pour lui, enfin, c'est une course pour lui. Van Aert, c'est pareil. Après, t'en as d'autres, hein. T'as d'autres personnes, mais on t'aura pas Tadej Pogacar. Ça aurait été largement une course pour lui aussi, hein, ce JO.
Parce que il a quand même un peu polyvalent,
Ah,
de toute façon, il peut gagner partout maintenant.
Ouais, il a gagné les classiques.
Ça, donc, le top 3, je pense qu'il y a, attention à Tom Pidcock aussi, côté britannique, je pense qu'ils peuvent peuvent faire quelque chose. Voilà, c'est les quatre.
Il fait pas la course en ligne. Non. Ah bah si, il fait la course en ligne.
Et si, il fera la course en ligne aussi. Mais
peut-être un peu moins.
Je le trouve un peu rincé par rapport à cette fin de tour. Donc, mais Pidcock, attention, je crois qu'il fait aussi le VTT. Donc,
Il a déjà fait.
Il sera peut-être pas performant sur les deux, mais on verra.
C'est vrai.
Puis après, ça reste toujours une course d'un jour. Hein. On sait que.
Ouais.
Ça peut exploser de n'importe quelle manière.
Et parfois, c'est pas un grand favori qui gagne. Hein.
Non, c'est pour ça.
Richard Carapaz a déjà été champion olympique. Hein.
Vinokourov.
Vinokourov aussi, exactement. C'était un peu inattendu. Aussi.
C'est ça.
Il suffit de se sentir bien sur les premiers tours.
Ouais.
Il a bien repéré un peu le parcours. Bon, le parcours a déjà été repéré.
Bien sûr. Pense.
En amont, ça a dû s'entraîner même sur des simulateurs, des choses comme ça, pour bien saisir les virages, des choses comme ça. Mais c'est vrai que... généralement, si tu te sens bien dans les premiers tours, je sais pas que c'est combien de tours.
3. Ils font un grand périple, mais il y a 3 tours avec 3 fois la montée de Montmartre pour finir. Donc, il faudra juste faire attention à cette descente en sortie de but de Montmartre là, qui peut être assez technique, même si elle est très courte. Mais le dernier virage est assez technique.
Je pense que là, ça va s'observer déjà dans le premier tour.
Complètement. Dans Paris,
comment ça va, sur des difficultés comme ça, comment ça va se comporter, qui va avoir les fourmis dans les jambes, ça va se voir tout de suite, je pense.
Oui.
Ouais.
Bon, voilà. On verra bien. Pour le Tour de France, épreuve de course en ligne donc masculine qui est prévue pour le samedi 3 août. Et donc, on sera en émission le soir même pour débriefer tout ça. On va passer maintenant au foot et au tournoi olympique qui va débuter dès demain avec l'équipe de France qui va entrer en lice contre les États-Unis. Justement, par rapport à ce tournoi olympique, donc vous présentez un petit peu l'équipe récemment arrivée à la tête des Bleus. Thierry Henry a fait face à de nombreux refus, hein, on rappelle, pour constituer son groupe pour les JO. Et il partira avec finalement donc trois joueurs de plus de 23 ans. La première liste, c'était seulement deux. Alors, il n'y aura pas de Kylian Mbappé ou encore d'Antoine Griezmann. Ce seront finalement Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, donc deux avant-centres, ainsi que Loïc Badé, qui est défenseur central, qui apporteront leur expérience à un groupe de jeunes prometteurs, en sachant que Loïc Badé est quand même assez jeune aussi. Dans leur groupe, on retrouvera, donc, comme je le disais, les États-Unis, mais aussi la Guinée, qui pourra notamment compter sur Naby Keïta, l'ancien joueur de Liverpool, qui va être également porte-drapeau de son pays. Et puis, on aura la Nouvelle-Zélande également dans ce groupe. Les gars, par rapport à ce tournoi olympique, ça, justement, ça fait souvent débat. Est-ce que vous, c'est un tournoi que vous allez regarder, qui vous intéresse, ou vous allez regarder d'un œil, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, le foot au JO, plus ou moins? Alors, forcément, il y a d'autres épreuves plus prestigieuses, mais...
On va forcément avoir un œil dessus. Après, oui, c'est vrai que on peut se poser la question de réellement de la place du foot au JO. Ce serait encore une équipe amateur qui serait montée spécialement pour les JO. Pourquoi pas? Je comprendrais le côté, voilà, les valeurs de l'olympisme. Là, bon, on reste sur les équipes, c'est
U23. U17, c'est moi, donc, même pas. C'est moi l'année.
T'es encore trop vieux.
Ouais, enfin, tu sais, quand tu vois qu'il y a à 16 ans.
Oui, non,
on peut devenir champion d'Europe, hein, pourquoi. Ouais. Mais en tout cas, voilà, enfin, c'est bien, hein, que ça reste les jeunes qui le fassent, mais je me dis qu'on aurait pu peut-être faire une équipe, voilà, enfin, en tout cas, si on devait redéfinir l'épreuve, peut-être mettre que des amateurs, du coup. Comme ça peut permettre justement à des joueurs à travers tous les 4 ans, d'un petit peu de se mettre en avant, et pourquoi pas d'être repéré par des gros clubs.
Et sur le tournoi lui-même, du coup. Ben, qu'est-ce que tu en penses?
Je t'ai dit, c'est lié tout ça. Donc après, on va sûrement avoir des beaux buts, on va sûrement avoir du spectacle, mais c'est pas la plus belle compétition en termes de foot, quoi.
Ouais.
Et tout ça parce que le problème, il est aussi là, c'est les clubs qui veulent pas lâcher leurs joueurs.
Florian, toi, tu vas suivre un peu?
Oui, je suis forcément parce que du coup, ça reste les jeux et ça reste donc 20 jours de compétition, donc ça risque d'être très, très intéressant quand même. Après, je rejoins en partie Cédric par rapport au fait que le foot prend une place. J'aimerais bien voir une variante du football, comme un peu le rugby là, avec le rugby à 7,
ouais.
Et de voir un peu autre chose, soit du futsal ou du beach au jeu, du coup.
Ce serait mieux.
Ouais. Et ce serait mieux, je pense, parce que du coup. Si pour moi en fait les fédérations ne jouent pas le jeu ou les clubs ne jouent pas le jeu, autant ne pas avoir une compétition comme celle-là, parce que tu vois, quand tu vois Thierry Henry et tout l'aura qu'il a pourtant, a complètement galéré à créer une équipe, mais je pense pour moi qu'il va aller au bout, parce que quand tu vois cette équipe, tu vois un peu l'état d'esprit, le fait que dans l'adversité, il a réussi quand même à créer quelque chose. Et quand tu vois la sélection, elle est quand même très belle. Il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe de France. Et en plus, il y a des équipes en face, des sélections en face qui sont sur le papier aussi très jolies. Hein. Tu vois l'Argentine, tu vois l'Espagne, tu vois le Maroc. Donc ça reste de très belles sélections et donc un beau tournoi en perspective en tout cas pour le foot.
Clément, toi, justement sur les chances françaises, comment tu le sens ce tournoi?
Ah, je le sens plutôt pas mal. Enfin, d'après ce qu'ils nous ont montré en match de préparation, ça semblait assez envoûtant. Après, est-ce que avec ce jeune âge qu'ont les joueurs, parce que la plupart ils ont quand même la vingtaine, quoi, ils ont pas tellement d'expérience dans des grands tournois, comme les Jeux Olympiques. Est-ce que ils vont réussir à supporter cette pression et à jouer comme ils jouent en club? Par exemple, je pense à des Ryan Cherki ou à bon Lacazette. Non, Lacazette c'est pas du tout le cas parce qu'il a beaucoup plus d'expérience, mais je pense que ça peut être intéressant à suivre et que, comme le disait Florian, il y a une chance pour les Français parce qu'il y a un très 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 beau groupe et un bon coach. Parce que Thierry Henry, je trouve qu'il fait des bonnes choses à la tête de cette équipe de France.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est que, enfin, il y a eu la conférence de presse aujourd'hui d'Henry. Il a mis, c'est le cas de dire, l'église au milieu de la place et il a dit.
Du village, du coup. L'expression, je crois que c'est.
Oui, on la place, le village. Hein,
les points sur les i.
Dans le village, il y a une place, il y a une église. Hein.
voilà. C'est clair.
Mais ce qu'il disait, bon, en plus, il y a le contexte, c'est que le premier match se joue à Marseille, son capitaine, c'est un Lyonnais. Donc, il est parti au début sur la blague. Voilà, bon, bah, faut vraiment que tout le monde soit derrière l'équipe, tout, aussi bien derrière les Lyonnais, tout ça. Et après, il a parlé un peu plus sérieusement. Pour lui, c'est voilà, c'est quand même important que l'équipe de France soit soutenue pendant ce tournoi-là. Et ça montre aussi que voilà, je pense qu'il a une volonté de durer quand même avec cette sélection. Et c'est pas j'ai été pris pour le côté un peu bling bling avec mon nom et je viens, j'aurai sur ma ligne d'entraîneur, coach, à faire les JO. Là, je pense qu'il propose quand même. Du contenu et un programme quoi, à long terme aussi derrière si la fédération le garde.
Moi, par contre, je souhaite qu'il parte après derrière. J'espère qu'en fait, vu comment ça s'est passé, le fait de faire sa liste, d'avoir des refus, je pense qu'en fait, à un moment donné, Thierry Henry, on l'a pris un peu pour
n'importe qui.
Pour n'importe qui. J'essaie d'être soft dans ce que je vais dire, mais on l'a pris pour un idiot, en fait. Clairement. Et j'espère, en fait, qu'à la fin, tu vois, ils fassent les jeux, ils gagnent les jeux et ils disent bon, bah, allez, stop maintenant. Voilà. Vous voulez pas vous organiser pour le bien-être du foot français? Bah, stop. Maintenant, j'arrête. Je vais trouver autre chose. Je vais essayer de vous trouver. Parce qu'en fait, quoi que Thierry Henry fasse, il le fait très bien. Après, il a eu des expériences malheureuses avec Monaco par le passé. En fait, c'était très malheureux. Toronto, ça l'a forgé. Enfin, tu vois que la Belgique, ça s'est bien passé dans son rôle d'adjoint. J'espère vraiment, tu vois, qu'ils gagnent les jeux et qu'ils disent stop. Maintenant, voilà, on m'a pris pour un idiot.
Après, le problème, c'est les clubs qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Ouais. Ça s'est joué jusqu'à la dernière minute.
Ah, hein,
quand on voit que Chelsea, en plus, sur un joueur qui était potentiellement dans la liste.
Pas remplaçant, qui est le remplaçant du remplaçant.
Voilà, on lui dit non, mais en fait.
Il revient.
Ton bon de sortie là pour les JO.
Et pareil, il y a un autre joueur de Monaco qui est.
Maxima.
Aujourd'hui même.
Ouais, la veille du match. Non mais c'est pour ça. Et en France, en tout cas, c'est les mêmes dirigeants qui ont fait n'importe quoi avec les droits du foot.
Voilà. Ouais, non, mais c'est
ça montre
c'est,
un peu
c'est
l'état du foot français en ce moment et de voir ce qui est fait. Ouais, c'est malheureux. Enfin voilà. Maintenant, tu vois, je trouve qu'il y a des dirigeants du foot qui ont plutôt bien répondu. Tu vois Rennes qui envoie Truffert, Lyon qui envoie Cherki alors qu'il est même pas sûr de rester au club l'année prochaine. Tu vois Lacazette t'envoie Cherki et Lacazette quand même. C'était deux meilleurs joueurs techniquement sur le papier. Bon après ça se discute avec Lyon. Oui, c'est maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je parle à un connaisseur. Mais ça reste quand même deux joueurs importants pour le club que tu peux potentiellement vendre et qui peuvent se blesser moment pendant 15 jours. Et pourtant Lyon les envoie. Donc je trouve que la classe du club, elle est là en fait.
Ouais. Non mais c'est pour ça. Enfin c'est l'Espagne là-dessus qui a bien pigé la chose, c'est que
raison d'état, c'est ce que tu veux dire.
Ouais, je sais plus comment ça s'est passé les accords, mais. C'est acquis, voilà, tous les Espagnols, quel que soit leur club, s'ils sont appelés.
Ils sont obligés de venir.
Ils peuvent,
ils sont obligés de venir.
D'être là, et en soi,
mais
c'est.
Les Espagnols.
Oui. Mais c'est pour ça, après, il faut que soit cette compétition-là soit reconnue par la FIFA. Et là, le problème sera résolu définitivement. Les clubs
ne pourront pas faire ça. La FIFA et et le CIO, je suis pas sûr que ça fonctionne ensemble.
Oui, non, mais tu vois, la seule issue possible pour que tu vois, on n'ait plus ce genre de discussion, c'est vraiment que ce soit inscrit dans le calendrier de la FIFA. Tu vois.
Oui, ok, d'accord.
Donc voilà pour l'équipe de France qui donc jouera son match, son premier match de poule contre les États-Unis. On rappelle, après il y aura des matchs contre la Guinée et contre la Nouvelle-Zélande.
Et on espère qu'ils vont rehausser le niveau par rapport au JO de Tokyo, parce que c'était vraiment misérable.
Ah, mais Tokyo c'était encore pire. La sélection c'était on a été chercher celui qui voulait venir
au Mexique. On allait chercher Gignac et toi.
Et comme quoi on peut enchaîner, hein, juste pour finir rapidement sur le foot, on peut enchaîner grosse compétition et Jeux Olympiques, la Copa América et donc les JO. Parce que du coup, Julian Alvarez fait les Jeux Olympiques. Donc
dans les plus de 23 ans, moins.
Je sais plus exactement.
Plus de 23 ans pour moi.
Voilà. On enchaîne également pour rester un petit peu sur le foot avec les féminines. Pour ce qui va être vraisemblablement donc sa dernière compétition avec l'équipe de France, Hervé Renard donc a fait au niveau de sa liste dans la continuité pour sélectionner ses joueuses pour le tournoi olympique. On rappelle que dans le groupe de l'équipe de France féminine, on verra le Canada, la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Messieurs, rapidement là sur ce dossier-là, pareil, on ambitionne la médaille d'or.
C'est toujours compliqué hein, dans les équipes féminins au niveau des JO. Il y a quand même des belles équipes un peu partout maintenant. Quand on voit les Coupes du Monde maintenant, enfin, c'est quand même costaud pour deviner qui va en sortir. Ça peut être intéressant. Moi, ce que je trouve dommage, pareil, c'est Hervé Renard qui avait l'air de pouvoir construire quelque chose autour du football féminin et finalement qui sera pas reconduit.
Non, c'est lui, c'est ça.
C'est lui qui veut partir.
Ouais, je sais, mais bon, je trouve ça dommage qu'on ait pas essayé de faire une continuité, voilà.
C'est comme ça. Les gars, un avis, non?
Bon, on espère la médaille d'or parce que je pense qu'il y a l'équipe qui a le potentiel pour, surtout se racheter après la Coupe du Monde un peu ratée. L'année dernière, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et on espère pour Hervé Renard sortir par la grande porte.
Oui, mais c'est ambitieux quand même, parce qu'il y a quand même du lourd en face. Oui, il y a l'Espagne, il y a les États-Unis, il y a le Japon aussi, donc ça reste ça reste des gros concurrentes, des grosses concurrentes, en tout cas des grosses sélections qui pourront potentiellement les embêter, en tout cas dans le dernier carré.
On verra si l'équipe de France féminine de football est capable donc de décrocher médaille lors de ces jeux. On va tout de suite enchaîner avec la pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite des previews autour des sports co. On va tout de suite écouter Angèle et Damso pour leur titre Démon. Tout de suite sur Radio G.
Jusqu'ici tout va bien, enfin ça allait. Confiant de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et j'apprendrai toutes les vertus. Oh, jour après jour je m'habitue. Quand j'en attends, quand je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Comment manger?
Radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus. Faux rappeur, non, pour moins de buts que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. J'en explorais autre chose, me plaire dans le cosmos. S'ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'prends un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game et j'maîtrise les quatre éléments. J'rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer mes
démons. Comme maintenant j'ai ma foi, j'ai plus mon nom.
C'était Angèle et Damso avec leur titre Démon sur Radio G. Vous êtes toujours en compagnie de toute l'équipe de Génération Sport pour évoquer l'actualité sportive. Et évidemment, l'actualité sportive, ce sont les Jeux Olympiques qui vont débuter très très bientôt, à la fin de la semaine et même demain pour certains sports collectifs. Avant de reprendre sur justement les sports collectifs, je vais entre guillemets donner la parole à Mathéo qui est dans le chat, qui revenait un peu sur le Tour de France, hein, qui dit notamment Tour de France géré du main de maître par Pogacar au sommet de son art. Voilà, il rappelle que donc le dernier grand coureur à avoir gagné 5 étapes sur le Tour, c'était Armstrong, où tu avais fait le parallèle, Florian. Donc voilà, effectivement, il parle aussi donc voilà de l'écart financier entre les équipes et puis il se félicite aussi Carapaz qui a fait un très bon Tour.
Oui, c'est vrai.
Voilà pour refermer cette page Tour de France. On va parler maintenant des sports collectifs avec ces Jeux Olympiques qui débutent très bientôt. Par quoi vous voulez commencer, messieurs? Est-ce qu'on commencerait pas par le volet, tiens? Florian, je sais que t'es un peu un expert entre guillemets.
Expert.
Donc pour l'équipe de France masculine, alors faut savoir qu'il y a quelques semaines, hein, les volleyeurs français, qui sont d'ailleurs champions olympiques en titre, ont remporté la Ligue des Nations au profit des meilleures sélections du volley mondial. Alors ils sont toujours emmenés par Erwin Engapet et les Français donc seront les favoris pour leur propre succession à la Paris Sud Arena. Voilà là où se tiendront les épreuves, avec notamment une phase de groupe qui est plutôt abordable, avec la Serbie, la Slovénie, le Canada. Je crois qu'on a évité des gros, Florian.
C'est le volet dans la continuité de 2021 à remporter la Ligue mondiale, enfin la Ligue des Nations 2022 et donc celle de 2024. C'est l'ancienne Ligue mondiale que la France avait déjà remportée par le passé. Donc ça augure que du bon. La suite de Bruno Resende en fait a été pris par le sélectionneur italien, la légende italienne Andrea Gianni. Franchement, je suis assez confiant pour le volet français là, pour le volet masculin français en tout cas pour ces Jeux Olympiques. Il y aura une médaille. Après, dans quel métal ça va être difficile à dire parce qu'il y a du lourd en face aussi et que le tournoi olympique est tellement, enfin ça équivaut pour toutes les sélections en fait et pour tous les sports. On le disait pour le foot, c'est tellement aléatoire, tu sais pas vraiment, c'est jamais vraiment le favori qui va gagner, c'est celui qui, il y a autre chose qui rentre en compte dans les Jeux olympiques et c'est ce qui s'est un peu passé pour la France en 2021. Ça a été une surprise de les voir remporter la médaille d'or olympique en 2021. Là, ça sera exactement la même chose pour 2024. Maintenant, t'es à domicile, donc forcément, on attend un peu plus de toi, hein, surtout quand t'es tenant du titre, et surtout quand t'as gagné la Ligue mondiale il y a quelques jours. Donc non, ça sera une belle bataille et il y aura forcément du très très lourd en face parce que c'est un peu comme en hand, c'est les meilleures sélections qui sont présentes au JO, quoi.
Effectivement, le volley qui a des grandes chances de médailles du côté des masculins. Les gars, vous voulez réagir aussi? C'est toujours une équipe sympa à voir.
Oui, c'est sûr que le volley c'est très sympa à voir. Et mais juste pour revenir sur le fait que ils sont possiblement favoris et en plus à la maison, j'ai peur que ça puisse leur porter défaut d'une certaine manière où en début de tournoi ils se mettent une pression qui n'est pas nécessaire et que peut-être, justement, ça peut leur porter défaut et donc, peut-être une élimination prématurée. Bien sûr, je ne le souhaite pas et j'espère que justement d'être à la maison, ça va les pousser à être encore meilleurs. Mais il faut se méfier de ça et de même pour l'équipe de hand qui est aussi une équipe favorite et qui, je pense, dont les Français attendent beaucoup, ne pas trop subir cette pression justement du résultat à tout prix.
On verra donc si l'équipe de France peut emporter une médaille. Cédric, Simon, rapidement.
Non, moi je pense qu'on a fait le tour sur la sur le volley, c'est un sport voilà, que je maîtrise moins personnellement, mais bon, c'est toujours agréable d'en
voir. Toujours agréable à regarder
aux JO.
Il y a 3 ans, voilà, on avait bien vibré, évidemment, sur les Jeux de Tokyo. Et puis, il parlait aussi des féminines, puisque à l'issue d'un long travail, de plusieurs années, les volleyeuses tricolores sont arrivées sur le devant de la scène européenne et même mondiale. Les résultats récents sont historiques pour l'équipe de France féminine de volley. On est notamment sur un meilleur classement dans un championnat d'Europe depuis 34 ans. Participation également historique à la prestigieuse Ligue des Nations et 15e place désormais au classement mondial. Les Françaises sont ambitieuses et pourraient peut-être, pourquoi pas, créer une surprise. Elles sont dans le groupe des États-Unis, de la Serbie et de la Chine. Florian,
est-ce je que crois t'as, pas.
T'as, quoi
Je crois pas trop. Je...
Non, non, mais
je suis pas convaincu par une chance de médaille. Ça serait une énorme surprise, en tout cas, de voir. Je sais que ça travaille très très bien, que ça progresse
de mieux en mieux, en tout cas,
de voilà. mieux en mieux. Mais pour l'instant, j'ai du mal à m'imaginer une médaille française en volley féminin.
Très bien, ce serait
autant en volley masculin, ok, parce que du coup l'équipe elle est incroyable. Mais autant on volait féminin. Franchement, ça travaille encore. C'est peut-être pour 2028, tu vois, pour progresser encore et travailler encore.
On va enchaîner avec le basket du côté des hommes, alors que les États-Unis ont sorti l'artillerie lourde pour les JO avec une vraie dream team. L'équipe de France avance avec une belle équipe aussi. Rudy Gobert est bien là, tout comme Evan Fournier, mais surtout Victor Wembanyama, l'attraction de la NBA qui fera ses premiers pas avec les Bleus dans une compétition internationale. Alors forcément, la concurrence sera forte, mais les Bleus ambitionnent de décrocher une médaille à Paris. Ils seront dans le groupe de l'Allemagne, qui est, je crois, championne du monde en titre. Du Japon, mais aussi du Brésil. On a été sur une phase de préparation avec des amicaux qui s'est pas forcément bien terminée, on va
pas
dire.
Pas de victoire.
Comment ?
Pas de victoire.
Si, la première.
La première, mais après, quand ça compte vraiment, parce que l'Allemagne, en plus, a joué sans les frères Wagner et sans le meneur Dennis Schröder.
Si, il jouait.
Il jouait Dennis Schröder.
Oui, j'ai regardé le match. Il a mis tous les points de l'Allemagne.
Ouais, donc du coup, il jouait sans les frères Wagner.
Ouais.
Donc du coup, quand il y a eu la vraie équipe de l'Allemagne, juste après, tu perds. Et derrière, tu perds contre la Serbie, tu perds contre le Canada.
L'Australie.
Qui sont des grosses nations en plus, donc de FIBA en plus, donc qui sont très très fortes sur la FIBA. Là c'est pareil sur le basket. Il y a un moyen de faire quelque chose et cette équipe-là a le potentiel pour. Maintenant, c'est comment tu vas jouer avec les deux, avec Wembanyama et Gobert en même temps. J'ai du mal encore à apprécier la chose. Tu parles de dream team côté américain. Enfin, c'est quasiment une dream team côté française parce que du coup, c'est la meilleure équipe que t'alignes quasiment. Parce que du coup, oui, Thomas Hartel n'est pas là, mais bon, après lui, c'est autre chose parce que c'est parce qu'il jouait aussi, il a joué en Russie et que maintenant, du coup, il y a des accords qui font que tu peux pas sélectionner quelqu'un, en tout cas en France, qui a joué en Russie. Mais sinon, c'est la meilleure sélection que tu mets. Alors après, c'est sûr que tu prends pas les petits joueurs de NBA qui viennent d'arriver, les rookies, enfin ceux qui viennent d'être sélectionnés, mais ils sont encore trop jeunes, ils ont pas d'expérience. Donc c'est techniquement la meilleure équipe que tu mets. La chance que la France a, c'est que tu es dans une poule un peu plus tranquille, on va dire. Ouais. Même si t'as l'Allemagne que tu joues, ça reste entre guillemets abordable. Derrière, t'as le Brésil, tu le disais, et
le Japon.
Et le Japon. Ça devrait le faire. Maintenant, la chance que t'as aussi, c'est qu'en face, t'as des sélections qui vont se rentrer dans l'art avec l'Espagne, la Serbie et le Canada.
Ouais.
Ça va être incroyable. Le premier tour, il va être fou.
Cool, ça,
il va être fou. Donc ça peut faire médaille, mais c'est de voir comment tu joues avec cette équipe-là, avec si peu de retours.
Le jeu a pas été très rassurant sur les matchs de préparation.
Ouais. Après, ça veut tout et rien dire. Peut-être que. Enfin, ils ont fait une mauvaise phase de préparation, mais ils vont peut-être monter en puissance pendant ce tournoi. Et faut le rappeler qu'ils jouent l'Allemagne lors du dernier match de poule, donc ça sera un match décisif pour la première place. Ils auront deux matchs pour se mettre en jambes et pas nous refaire comme à la Coupe du Monde. Mais j'espère que oui, ils vont monter en puissance parce que s'ils continuent à jouer à ce niveau, c'est sûr qu'ils iront pas chercher la médaille.
Voilà pour l'équipe de France masculine de basket. Chez les féminines, on retrouvera quelques visages bien connus comme Marine Johannes, Marine Fautou, Iliana Repère, l'ancienne Angevine, Leïla Lacan, ou encore Janelle Salone, qui est la sœur
de Tidiane,
de Tidiane, et les joueuses de Jean-Aimé Toupane sont dans le groupe du Nigeria, du Canada et de l'Australie. Donc voilà pour l'équipe de France féminine
médaille.
De basket. Là, c'est médaille aussi.
Ouais, médaille.
Bah, ils ont eu une médaille au dernier JO déjà.
Ouais. Mais il y a la continuité, et je pense que ça va être pour avoir vu le dernier match en plus contre la Chine, là, c'était sérieux, c'était propre. Donc, là, ça fait médaille. Après, quel métal, je sais pas, mais c'est comme on le dit toujours, c'est toujours aléatoire. Enfin, pour moi, il y a qu'une sélection olympique de sport co que je vois sûr d'avoir une médaille d'or, on va en parler juste après.
Ok, très bien.
Pour faire ta transition.
Et bah, la transition est toute trouvée. Enfin, en tout cas, j'espère que je pense à ce que tu penses. On va parler de handball.
Ouais, voilà. <c'est bon. rire>
Avec l'équipe masculine notamment. Pour sa toute dernière compétition internationale et donc les derniers matchs de sa carrière, Nikola Karabatic arrive au jeu avec la volonté d'une cinquième breloque et surtout un quatrième titre olympique. Pour mener à bien cette ultime mission, le meilleur joueur de tous les temps pourra s'appuyer sur un groupe qui vient de remporter les championnats d'Europe en janvier dernier. Le sélectionneur, Guillaume Gilles a tout de même opéré quelques changements en se passant notamment de Timothée Nguessan. Inquiétude également quant à la présence d'un des meilleurs joueurs du monde actuel, dit quand même blessé à la main lors de la préparation et encore incertain pour les JO. Choix également, c'est de mon point de vue, contestable de reprendre Vincent Gérard en équipe de France qui, on le sait, est proche de la retraite. Ce sera d'ailleurs sa dernière compétition. Et il a évolué la saison dernière en Pro League à Istres, notamment. Et il est sélectionné en lieu et place, notamment, de Samir Bellassen qui, je trouve, avait fait un très bon euro. Donc, par rapport à ça, j'ai quelques réserves parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gardiens nous font gagner des titres. C'est très important d'avoir un gardien de très haut niveau. Alors, Vincent Gérard, pour un petit peu rester quand même, à garder un petit peu d'honnêteté intellectuelle, il avait quand même sa meilleure compétition, ça restait les JO de 2021.
Ouais.
Donc, on comprend peut-être aussi sa motivation qui va rester là pour gagner ces Jeux à Paris.
Il vient en deux ou en un ?
Il vient a priori en un. A priori, c'est ça qui me justement me
parce que encore en deux,
un petit peu.
Ce serait pour amener de l'expérience, expérience des JO, mais là
il vient en un parce que justement derrière lui finalement il n'y a pas forcément de numéro un qui se dégage parce que Bellassen est quand même en concurrence avec Bolzinger ou Desbonnet.
Ouais.
Donc voilà et bon en tout cas pour moi Vincent Gérard n'a jamais été vraiment le remplaçant digne de Tiromeyer, c'est impossible, j'ai envie de dire. C'est compliqué, mais je pense que ça nous a fait perdre pas mal de tournois à certains moments donnés. Mais les JO 2021, il n'y avait rien à dire. C'était d'ailleurs sa meilleure compétition. On a gagné. Donc il faut qu'il ait ce niveau-là. On rappelle que les Français sont dans le groupe de l'Argentine, du Danemark, de l'Égypte, de la Norvège et de la Hongrie. Donc c'est quand même très très relevé. Donc on le dit, groupe à 6 équipes. Je crois que ce sont les quatre premiers qui vont passer en quart de finale. Tu le disais donc, Florian, tu crois beaucoup en cette équipe ?
Oui, je crois beaucoup en cette équipe parce que du coup, tu as une culture olympique dans le hand qui est monumentale et forcément, s'il y a un sport où on peut être chauvin au JO, en tout cas un sport de préo comme on dit, c'est bien le handball, franchement. Et puis tu le disais, et je te rejoins là-dessus, de voir Karabatic terminer sa carrière sur un titre olympique, ça serait incroyable. Et tu vois, on avait le débat en off de savoir qui va porter la flamme ou pas. Mais clairement, ce mec-là, en dernier,
il pourrait.
Tu vois, il a le palmarès olympique pour porter la flamme en dernier. Mais après, il y en a tellement aussi.
Oui.
Et puis, lui, il est encore en activité. Bon, après, par le passé, il y a déjà eu des personnes en activité qui l'ont porté. Après, il y a une frasque extra-sportive
les paris sportifs.
Les paris sportifs, et encore, c'était même pas lui directement.
Ouais.
Tu vois, s'il y a quelqu'un qui porte la flamme, j'aimerais bien Pérec ou lui, c'est clair, en tout cas.
On va enchaîner parce qu'il est déjà 55, ça passe très vite. Alors,
ça sera mieux 2 heures.
Je vais vous donner un petit peu, oui, évidemment, samedi, on aura le temps. Je vais vous donner les groupes, notamment pour l'équipe de France de féminine de handball, avec l'Angola, le Brésil, l'Espagne, la Hongrie et les Pays-Bas. Et à noter, les rugby à 7, on en parlera sûrement samedi, puisque là, on se sera pendant la finale qui aura lieu à 19h45.
Deux matchs d'affilée à suivre dès demain.
Dès demain, oui, bien sûr, mais la finale aura lieu donc pendant l'émission de samedi, donc restez là si vous voulez suivre.
Ça va crier.
Ça avec nous, on a peut-être une médaille qui peut arriver. Rapidement, avant de laisser la main sur le tennis, il y a eu un très bon résultat ce week-end de Arthur Fils qui a gagné le tournoi ATP 500 de Hambourg devant Alexander Zverev, rien que ça, et ça va notamment lui permettre d'être tête de série pour le tournoi olympique simple messieurs, et il sera aussi tête de série tout comme Hugo Humbert. Est-ce que sur ce tournoi on a possibilité d'aller chercher une médaille peut-être de bronze, évidemment, parce qu'il y a une grosse concurrence? Est-ce qu'il y a peut-être moyen au moins d'avoir un beau parcours, ou pas du tout, vous n'y croyez pas?
C'est Roland Garros. C'est Roland Garros bis.
C'est vrai. C'est vrai.
Non, après c'est un format qui est quand même plus rapide. Oui. Ça joue quand même
plus
différemment. Voilà,
c'est 6 tours de 3 sets. Enfin 6 tours en meilleur des 3 sets.
Ouais. C'est ça va aller très vite. Donc pourquoi pas, après vaut mieux faire une victoire sortir battu comme il a fait là juste avant l'entame des JO, effectivement pour la confiance, c'est intéressant.
Ouais. Faut quand même rappeler qu'il y a quand même Alcaraz,
oui.
Djokovic, Sinner.
Il y a du bon monde, hein, c'est ça, on peut pas le nier.
S'il y a des quarts ou des demi, ce serait déjà un exploit.
À mon avis, pour le double, ça va être compliqué.
Non, mais parce qu'on peut avoir quand même de...
Mais en solo, pourquoi pas, quoi.
Zverev, Medvedev.
Si on retrouve un peu, ce côté, au-delà de la médaille, on peut avoir ce côté Roland Garros, où ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu de Français, ne serait-ce qu'en quart de finale.
Oui.
Ça peut être aussi
la magie olympique, pourquoi
après,
pas.
Après, tu regardes à Tokyo, c'est Zverev qui gagne, mais en finale, c'est Khachanov et Karanyo Busta en 3e place.
Oh, mais là, il y avait pas tous les clients que il y a.
Ouais, mais bon. Donc, ça te montre que tu vois, c'est possible encore de te dire.
Faut voir. La magie olympique, c'est toujours différent.
Ouais.
Donc on verra si les tennismen sont capables de remporter.
Par contre, chez les femmes, ce sera encore incertain, à mon avis, de deviner.
Caroline Garcia, Grasheva, Burel et Diane Paris qui sont sélectionnées.
Il y a Ziatek qui fait les JO ou pas?
Je crois qu'elle a déclaré forfait.
Ouais.
Et puis vous aurez, parce que j'ai parlé d'Humbert et de Fils, on aura également mon fils qui fera ses derniers jeux. Ce sera assez beau à suivre. Et puis, Corentin Moutet, qui avait fait un très beau parcours à Roland-Garros.
On espère un « je vous avais dit quoi ».
C'est ça, peut-être. Un peu mieux fait qu'à Roland-Garros.
Ouais, c'est vrai que c'était...
Voilà pour ça, messieurs.
Elle est là, Ziatek, pour les jeux, apparemment.
Ah, finalement, elle sera bien présente. Voilà pour cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un plaisir de parler un petit peu des JO à quelques jours, à quelques heures du début de ces Olympiades qu'on suivra ensemble sur Radio G. On vous redonne une nouvelle fois, et oui, on va être saoulant avec ça, mais on a besoin de le faire, de 19h à 21h tous les samedis pendant les Jeux. On sera en direct sur Radio G pour vous faire vivre en direct ces Jeux Olympiques avec des commentaires d'épreuves, des chroniques, des débats, pas mal de belles choses. On voulait être avec la suite des programmes sur Radio G, et puis on se dit à samedi pour une émission spéciale de Génération Sport.